Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure littéraire. Alors c'est une aventure littéraire aujourd'hui, un livre, un auteur qui me tient particulièrement à cœur. Je la lis depuis très longtemps, je sais qu'elle est extrêmement lue, elle est traduite dans plusieurs langues et notamment en Russie. À chaque sortie de ses sagas, de ses histoires, elle nous emmène soit dans sa région natale, à la Charente, mais elle nous fait aussi voyager. Avec son nouveau livre, sa nouvelle saga, eh bien, nous allons partir outre-Atlantique puisque nous allons nous retrouver à New York. J'ai donc le plaisir, sincèrement la joie de recevoir aujourd'hui Marie-Bernadette Dupuis. Bonjour.
Bonjour, je vous remercie de me recevoir.
Merci, c'est avec un plaisir sincère pour votre dernier ouvrage, L'orpheline de Manhattan, paru aux éditions Kalman Levy. Alors bien évidemment, on ne nous présente plus parce que vous êtes un auteur très connu, vous publiez dans plusieurs pays et traduit dans plusieurs langues. Vos sagas ont fait le tour de bon nombre de librairies, de tables de chevet. Alors, on va tout d'abord parler de ce dernier ouvrage, L'orpheline de Manhattan, je disais, paru aux éditions Kalman Levy. On va se retrouver à New York en 1886, où un couple, Guillaume et Catherine, eh bien, vont vouloir aller vers le Nouveau Monde et s'embarquer pour de nouvelles aventures. Alors ce coup-ci, on a quitté la Charente et on se retrouve à New York. Dites-moi, comment s'est passé ce transfert, cette histoire, la genèse de ce nouveau roman ?
Eh bien, disons que j'aime beaucoup New York et un soir d'été à New York, justement, alors que depuis le pont de Brooklyn, je regardais s'allumer, briller les millions de lumières de la formidable cité.
Oui.
Il faut dire que j'étais avec un ami écrivain, justement, et je lui parlais de ce que je ressentais. Et je lui ai dit que j'étais frappée par l'idée d'un roman inspiré de faits authentiques. Comment dirais-je, une histoire dont l'intrigue, riche en action bien entendu, oui, et en suspense, se déroulerait en partie dans la perpétuelle rumeur de cette ville.
Oui.
Le point de départ serait le destin souvent tragique des petits orphelins qui déferlaient à l'époque, hein, sur les marches du Nouveau Monde. Mmh. Par la suite, j'aimais beaucoup me promener dans Central Park.
Oui.
Qui n'aime pas Central Park,
et oui,
le poumon de New York.
J'ai adoré, je suis comme vous, j'adore New York et Central Park
c'est
aussi.
Comme moi, oui. Oui, moi c'est pareil, à chaque fois, tous les jours j'allais faire ma promenade,
oui,
et je marchais. Et c'est vrai que donc, mes promenades m'ont confortée dans ce projet. Et je ne sais pas pourquoi, parce que chez moi, tout est visuel.
Oui.
Je voyais l'image d'une fillette endormie sur un banc. Une enfant perdue, c'est ce que ça me donnait, en fait. Mm-hmm. Qui avait déjà un lourd passé, un très lourd passé.
Oui.
Voilà, et une fois le scénario construit dans ma tête, je suis rentrée chez moi et je me suis lancée dans cette nouvelle aventure. Mm-hmm. Donc, avec comme toile de fond les riches et mystérieuses terres de Gourville en Charente.
Oui.
Mais nous ne dirons pas Gourville, nous dirons Guerville.
Guerville,
voilà.
Oui. Alors, l'action à New York commence donc en 1886 pour Guillaume et Catherine, qui espèrent bien évidemment nouvelle existence dans ce nouveau monde. Ce rêve va se transformer un petit peu en cauchemar. Leur fille Elisabeth...
Un gros cauchemar.
Leur fille Elisabeth va être un petit peu livrée à elle-même. Elle va se retrouver une nuit déambulant dans Central Park et elle va être renversée par une calèche. Et là,
voilà,
tout son destin va basculer. Elle va être recueillie par un couple, les Walworth, qui sont riches. Et devant cet enfant qui a beaucoup de charme, qui est très joli, eh bien, ils vont l'adopter. Et donc cet enfant qui arrive avec un couple démuni pour une nouvelle existence va se retrouver choyé et gâté jusqu'au jour,
oui, comme une princesse.
Une princesse jusqu'au jour où à 16 ans elle va découvrir qu'elle a été adoptée. Et là, toute
voilà,
la quête,
là, c'est le drame.
C'est le drame. et toute la quête d'Elisabeth, et c'est là où j'aime aussi votre talent, c'est que vous savez à la fois décrire les jolies choses, les joies, les bonheurs, mais il y a aussi toujours ce suspense. Au détour de la page, on ne sait pas ce que va être la suivante ni la troisième, on ne s'y attend pas. Et toute la quête d'Elisabeth, ça va être de retrouver sa trace qui, bien évidemment, l'amèneront jusqu'en France. Moi, j'ai trouvé que vous étiez attachée à cet enfant, Elisabeth. C'est une petite fille, c'est votre héroïne, mais en même temps, vous, au travers de ce livre, vous la protégez, vous la choyez. Vous l'aimez beaucoup, Elisabeth. Vous y êtes très attachée, j'ai eu le sentiment.
Oui, c'est un personnage qui m'est cher, oui.
Et alors, donc Guillaume, on disait Guillaume et Catherine. Alors, donc, vous disiez, il y avait la trame quand vous étiez à Central Park et puis à New York. Comment ça s'est passé? Donc, vous êtes rentré en France, vous avez écrit votre livre, mais au fur et à mesure des choses, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont apparues, que vous avez modifiées par rapport à ce que vous aviez vu ou ressenti en étant à New York?
Bien, disons que, en général, je procède toujours de la même manière. Je construis un scénario, un petit scénario, qui va ensuite grossir, puisque je vais faire un tas de recherches, l'année choisie, les années 1900, un peu avant, donc, et à partir de là, donc, je vais découvrir effectivement d'autres choses, et on dirait que tout arrive à point, c'est très étrange. Mm-hmm. Et en fait, il y a un mélange où le cœur, le destin se partagent.
Le rêve et la réalité.
Entre la France et New York, à l'aube du XXe siècle.
Oui. Et il y a tant à dire et tant à faire, parce que New York, à l'aube du XXe siècle, il s'y passe énormément de choses. C'est de grands bouleversements.
Tout à fait, que le lecteur pourra découvrir aussi.
Oui, tout à fait, oui. Alors,
que je m'inspire tout le temps de faits authentiques.
Oui, justement, c'est vrai que là, justement, c'est le cas dans ce livre, mais c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres de vos sagas.
Dans tous mes autres livres, oui.
Oui, il y a toujours une part historique très importante, toujours beaucoup de recherches. Par exemple, si je me réfère à l'Orpheline des Neiges, eh bien, vous nous avez envoyé à Val-Jalbert. Là aussi, c'était une sacrée aventure aussi.
Oui. Là, j'étais tombée en amour avec le site. Mmh. Pareil pour Abigail, pareil.
Oui. Alors Abigail, il faut le préciser pour tous nos auditeurs, vous avez écrit une grande saga sur le Moulin des Loups. Ça se passe fin 19e, début 20e, avec Claire, Jean, Bertille. Et tous les loups du moulin, bien évidemment.
Et alors, oui, effectivement, ici, la série s'était arrêtée au sixième, alors qu'un septième tome
était prévu.
Aurait pu voir le jour.
Et, oui.
Et là, mon éditeur du moment a fait cesser, comme ça, la série, et beaucoup de lecteurs ne comprenaient pas. Mm-hmm. Moi non plus, je me sentais très mal envers mes lecteurs, parce que je leur devais cette fin. Et puis j'ai changé d'éditeur. Il y a eu un changement d'éditeur. Il a pris sa retraite. Et donc, j'ai écrit Abigail, messagère des anges.
Oui.
6 tomes.
Oui.
Et là, mes chers lecteurs auront le plaisir, je pense, de retrouver, d'avoir des nouvelles, de Claire, de Jean,
De Bertille,
etc.
Voilà, et puis de retrouver l'histoire des loups et de ce moulin des loups que nous avons quitté. Que nous avons quitté.
Par l'intermédiaire d'Abigail, qui est charmante, qui est pleine d'amour et d'attention.
Et d'attention. Oui. Alors, pour ce roman, L'orpheline de Manhattan, en fait, on dit orpheline, mais elle va se retrouver une famille. Alors, ce qui est assez intéressant, elle vient d'une famille modeste, et elle va se retrouver dans une famille riche, donc elle va être élevée dans ce milieu-là. Comment vous avez construit le personnage de ce passage à une famille modeste et se retrouver avec les Woolworth, qui sont une famille éminemment connue et riche à New York?
Disons que si l'on prend dès le début,
Oui.
Elle n'est pas pauvre,
oui.
l'enfant, mm-hmm. puisque sa maman est la fille des châtelains de Guerville,
de Guerville
en Charente,
oui. mm-hmm.
des terres de Guerville.
Terres de Guerville,
voilà.
oui.
Et, donc, à la base, elle n'est pas pauvre du tout,
mm-hmm.
mais la maman, les parents
oui.
de la maman,
de Catherine,
sont riches, aisés. C'est le papa qui n'est pas très riche,
mmh. Guillaume, mmh.
et donc ce qui provoque
des tensions,
beaucoup de haine de mmh. la part du papa de Catherine.
Alors, il y a toujours dans vos sagas, justement, ces différences entre, par exemple, dans le Moulin du Loup, il y a le domaine, les habitants du domaine, et puis il y a les habitants du Moulin du Loup qui sont certes pas pauvres non plus. C'est plus compliqué parce qu'ils doivent travailler de
voilà,
la terre.
Ils
travaillent de la terre.
Du côté de la maman d'Elisabeth,
oui.
C'est une famille, ce sont des châtelains, ce sont... Voilà. Donc, ils ont de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais c'est le problème, c'est le père d'Elisabeth.
Mmh. Mmh.
Le père d'Elisabeth qui n'est pas le bienvenu dans cette famille très aisée.
Oui. Mmh.
Et donc, en même temps, le fait de partir vers New York,
oui.
Pour eux, est une bénédiction, mais qui va se terminer en drame.
Oui. Oui, parce qu'ils vont perdre leur petite fille. Vous avez toujours, dans vos sagas et dans celle-ci aussi, il y a toujours aussi une grande part de suspense, c'est-à-dire il y a la joie, le bonheur, il semble que tout va aller bien, et puis tout d'un coup, un événement surgit, soit dans toutes les sagas, dans tous vos livres. Comment se passe, vous, cette construction intellectuelle, parce que les drames, il y en a, c'est la vie, c'est comme ça, mais il faut pouvoir entre ce qui est la réalité et le mettre sur le papier et le faire vivre à vos personnages, comment ça se passe pour vous à ce moment-là?
Je sais pas, ça me vient comme ça, ce sont des images, c'est... Bon, je lis beaucoup aussi,
oui.
Je lis beaucoup,
oui.
Je regarde beaucoup de films, je m'intéresse beaucoup à l'actualité.
Oui.
Peut-être que dans ma famille, je dis bien peut-être qu'il y a eu des drames.
Oui.
Je n'en parlerai pas.
Oui, bien sûr.
Et voilà, c'est pas facile à expliquer. C'est,
oui, je comprends.
C'est un tout.
Oui, c'est un tout. Et puis, c'est quelque chose aussi de personnel. Les visions, la façon de ressentir les choses pour un auteur, c'est toujours assez personnel aussi.
C'est pas facile. Enfin, disons, c'est pas facile à exprimer.
Oui, je comprends.
À expliquer.
Oui. Eh bien, écoutez, j'espère que ce qui va être facile à exprimer, c'est la petite pause musicale que nous allons faire. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
D'accord, merci beaucoup.
As it faithfully blows. half conceals, half discloses.
Now it catches the gleam of the morning's first beam.
In full glory reflected now shines on the screen. 'Tis the stars and the
sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour le livre de Marie-Bernadette Dupuis, L'orpheline de Manhattan, aux éditions Kalman Lévy. Je disais donc, il y a cette part de suspense. Moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est comment vous construisez votre journée par rapport à votre écriture. Comment se passe l'organisation de Marie-Bernadette Dupuis quand elle écrit?
Alors, quand j'écris, je vais vous surprendre. J'ai été habituée à travailler la nuit. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup de concentration, plus oui. que d'autres peut-être. Et alors moi, c'est plutôt le soir. Le soir, moi, pour me détendre, pour être bien, je regarde un film.
Oui.
Des sagas. J'adore regarder des sagas, des films,
des séries,
des thrillers. Je regarde de tout. Mm-hmm. Et ensuite, vers 11h, minuit, eh bien j'écris jusque vers 5h du matin.
Ah oui. Ah oui.
Ensuite, je vais dormir un petit peu. Le matin, vers 8h, je ne dors pas beaucoup. Je me réveille, mais les après-midi, je suis complètement... Alors là, je suis fatiguée, là, je dors... Je dors jusque vers 17h. Vous voyez, c'est pas la même chose que certains auteurs.
Oui. La nuit vous porte et vous aide à écrire, en fait.
Oui, certainement. Et je suis mieux la nuit pour écrire que dans la journée. Mm-hmm. Évidemment, dans la journée, je vais corriger. Est-ce que je relis des petites choses mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. L'écriture me vient beaucoup plus la nuit.
Mmh. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des brouillons ou l'écriture arrive au fur et à mesure que, je sais pas si vous écrivez à la main, si vous servez d'un ordinateur, comment ça se passe, le processus?
Alors avant, j'écrivais à la main, mais je me suis mise à l'ordinateur.
Oui.
Bon, effectivement, je m'aperçois qu'on peut faire du couper-copier, etc.
Oui.
Donc... Je gagne du temps, je gagne beaucoup de temps.
Mmh.
Et non,
ça, c'est
bon,
plus...
je prends toujours des petites petites notes, oui, des petites choses comme ça, mais que je retape après, ensuite.
Et quand vous étiez à New York, par exemple, là où vous ressentiez toutes ces choses pour votre nouveau roman...
mais j'avais mon petit cahier, là, voilà. J'ai mon petit cahier.
Voilà, c'est ça que je voulais savoir.
Et je prends des petites notes comme ça, et je rêve, c'est une façon de parler.
Oui.
C'est là, j'ai toujours, en fait, quand je me trouve devant un site qui me plaît,
oui,
il se passe quelque chose en moi, et donc...
Ça a été le cas, par exemple, pour...
ces visions, c'est très étrange. Oui.
Ça a été le cas pour...
Je ne sais pas bien l'expliquer, parce que...
Oui, ça a été le cas pour Valjalbert.
C'est une sorte de rêve éveillé.
Oui.
Et l'inspiration jaillit.
D'accord. Donc ça a été le cas à Valjalbert, à Québec. L'endroit vous a
tout
plu.
Tout à fait. Et pour mes autres livres, pour tous,
oui,
mes autres livres.
Oui, pour tous les autres. Oui, oui, tout à fait.
Oui.
Tout ouais, à fait.
Oui, oui, la vallée des eaux claires en
la
Charente.
La vallée des eaux claires en Charente, oui. Alors, la Charente, c'est quelque chose, bien évidemment, qui vous tient à cœur, parce que vous êtes né en Charente. Donc, c'est vrai que grâce à...
Je suis née en Angoulême, je tiens à le préciser. Je ne suis pas née à Gonpontouvre, comme beaucoup de personnes le croient. Je suis née à Angoulême. J'adore cette ville,
d'ailleurs. Oui. Mais grâce au Moulin du Loup, vous nous...
Je suis à Gonpontouvre, mais je suis née à Angoulême.
Grâce au Moulin du Loup, vous nous l'avez fait découvrir.
Au passé historique.
Oui, oui.
Avec son château, tout ça. Et moi, j'aime beaucoup ma belle ville.
Oui. Ben, vous nous l'avez fait découvrir grâce au Moulin du Loup. Toute la région, on l'a découvert. La vallée des Eaux Claires, Puy-Moyen.
Voilà, oui, oui,
Puy-Moyen, on a découvert grâce à vous. Mais grâce à vous aussi, certains découvriront Central Park, parce que ce qu'il y a toujours de bien dans votre livre, et notamment sur le dernier, L'Orpheline de Manhattan, c'est qu'en plus, il y a une description des lieux. Donc, on imagine bien les personnages dans cette ville-là. Ça, c'est dû à des recherches assez minutieuses, je suppose.
Assez poussées, mais ça, c'est moi. Je veux dire, je... En fait, je suis ainsi. Je suis ainsi.
Oui.
C'est difficile, comme je le disais tout à l'heure, à expliquer. Subitement, il y a quelque chose qui se passe quand je tombe comme ça en amour avec un site, avec... Moi, un cadre fascinant.
Et les personnages...
j'ai des images qui me viennent.
Et les personnages vous arrivent de la même façon? Les prénoms des personnages vous arrivent de la même façon?
Pardon, je n'ai pas bien compris.
Les personnages vous arrivent de la même façon, c'est-à-dire que dans votre imaginaire, tout d'un coup, ils s'inscrivent comme ça, ils deviennent vivants?
Oui, ce sont comme des images. Et je vois la petite fille, je la vois, je la ressens, je la vis.
Et les prénoms les prénoms, moi je me suis toujours demandé comment les noms et les prénoms étaient choisis par les auteurs. Comment ça se passe
Pour moi, les prénoms s'imposent. Je ne peux pas expliquer... par exemple, dans ma série Angelina,
oui,
j'avais été très déçue parce que j'avais appelé mon héroïne, je l'avais appelée Louise.
Oui.
Louise, le prénom de ma grand-mère. Et mon éditeur a voulu le changer pour Angelina. Sur le moment, je me disais, mais c'est plus mon livre, c'est plus... on m'a pris une partie de mon livre. Voilà, mais... Bon, on se fait aux événements, aux choses, tout ça, mais
bien
je veux
sûr.
Dire, j'aime pas quand on me change le nom de mon héroïne. Mon héroïne, elle vit avec moi, elle vibre avec moi.
Bien sûr. Alors,
je la vois, je la ressens, ce sont des choses qui me sont données par autre chose.
Alors, est-ce qu'il y aura une suite, je suppose, à L'Orpheline de Manhattan? Dites-nous.
Alors, oui, il y aura les... Alors, en tome 2... Début mai,
oui.
Les Lumières de Broadway.
Oui.
Chercher, pardon.
Lumières de Broadway. Oui, ça s'impose bien, oui, effectivement.
Voilà. Et début septembre, le tome 3.
Oui.
Dernier tome,
oui.
Je précise.
Là,
je sais qu'on est en train de chercher un titre et je pense qu'on va s'arrêter sur Les Larmes de l'Hudson.
Les larmes de l'Hudson, oui, d'accord. Magnifique fleuve.
Les larmes de l'Hudson.
Magnifique fleuve.
Le fleuve qui passe autour de New York.
Oui, tout à fait. Et donc là, bien évidemment, l'intrigue, l'histoire, elle est déjà liée, elle est dans votre tête, elle est déjà sur le papier ou presque.
Oui, je suis en train train de l'écrire. Je suis en train d'écrire mon troisième tome.
D'accord, ok. Donc le deuxième tome sortira donc au mois de mai.
Début mai, voilà.
Et alors,
et début septembre, le troisième.
Alors, au-delà de l'orpheline de Manhattan, vous connaissez déjà vos prochains projets après l'aventure d'Elisabeth?
Oui, mais pas... Je n'ai pas encore bien... Parce que là, je suis trop avec Elisabeth.
Oui, bien évidemment, oui. Bien.
Donc, voilà. Mais je sais, il y a quelque chose qui est déjà...
Qui est déjà en train de mûrir, hein.
En moi, oui.
Est-ce que vous repensez parfois aux autres sagas, elles sont nombreuses, que vous avez écrites? Est-ce que parfois vous repensez à tous ces personnages qui nous ont tenus à cœur, donc forcément qui vous tiennent aussi à cœur? Est-ce que vous y repensez?
Oui, souvent aussi à l'orpheline du Bois des Loups,
oui, oui.
Qui m'a fait connaître au grand public.
Oui.
Parce que là, j'avais fait des rencontres extraordinaires, justement. Mm-hmm. Mais on dirait que tout, je ne sais pas, toutes ces idées me viennent peut-être d'un monde parallèle. C'est très difficile à expliquer.
Oui, en fait, vous êtes fait pour écrire et pour notre plus grand plaisir, finalement. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir pour votre dernier ouvrage, L'orpheline de Manhattan, aux éditions Kalman-Lévy. On rappelle que le tome 2 va sortir donc au mois de mai et que le tome 3, il y aura 3 tomes, sortira en septembre. Je sais que ça vous tenait également à... Voilà, je sais que ça vous tenait à cœur aussi de dire que Abigail, il y a 6 tomes, c'est la suite du Moulin des Loups, hein, que les lecteurs retrouveront Jean, Claire, Bertille, Faustine et toute leur famille, puisqu'on les avait laissés en juin 40, si ma mémoire est bonne, avec les Lorrains qui habitaient la maison des Dumont. Voilà.
C'était vous lisez bien les livres.
Oui. Je suis une passionnée parce que dans votre livre il y a beaucoup d'histoires. Moi j'adore l'histoire et puis les personnages sont toujours très attachants.
Je vous remercie.
Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir.
Donc... Et puis j'en profite donc pour saluer tous mes lecteurs là, qui écoutent.
Voilà, tout à fait.
Et je les embrasse bien affectueusement.
Et bien, moi, je voulais préciser également aux auditrices et aux auditeurs que de ces deux ailes, que le Salon du Livre ouvre ces jours-ci à Paris, à la Porte de Versailles. Et donc, je vous enjoins à y aller nombreux parce que vous pourrez rencontrer des auteurs, avoir des autographes. Voilà. Merci Marie-Bernadette Dupuis.
Alors voilà, je vous remercie beaucoup et merci à tous, toute l'équipe.
Merci et à très bientôt en tout cas.
Et
bonne lecture à vous tous.
Beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful